À voix nue, Caroline Brouet.
Laure Adler, journaliste, autrice, féministe.
Deuxième épisode, les studios de radio et les plateaux de télé. Bonjour Laure Adler.
Bonjour Caroline.
On vous a quitté sur votre thèse et vos études d'histoire dans le premier épisode hier, mais quelques années plus tôt, avant même la publication en 1979 de votre premier livre issu de votre thèse, il se trouve que vous êtes entrée dans une maison qui va devenir la vôtre pendant 50 ans, puisque vous en êtes partie comme 2023, et cette maison c'est Radio France. Nous n'y sommes pas, nous enregistrons ces émissions chez vous. Mais la radio, ça a été tout un monde, ça a été effectivement comme une deuxième maison pour vous. Est-ce que vous l'écoutiez avant même d'y entrer? Est-ce que toujours vous avez écouté la radio, même petite, quand vous étiez en Guinée, quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous écoutiez la radio?
Non, il n'y avait pas de radio chez mes parents, il n'y avait pas de télévision. J'ai écouté la radio quand j'étais petite et que j'allais en vacances chez mes grands-parents en France, et notamment chez ma grand-mère maternelle.
À Caen?
À Caen, parce qu'il se trouve que j'y ai passé un an et demi, presque deux ans, au moment de l'indépendance de la Guinée. Mes parents ont voulu rester dans ce pays qui était en train de devenir indépendant, qui à l'époque était dirigé par Sékou Touré, qui hélas est devenu cet atroce dictateur que l'on connaît. Mais à cette période-là, c'est un des pays qui le premier a assumé son indépendance contre le général de Gaulle, et mes parents ont souhaité rester dans ce pays, mais la police française n'avait pas voulu que les enfants en bas âge, comme on disait, restent sur le territoire guinéen. Donc j'étais chez ma grand-mère à Caen, et là la radio jouait un grand rôle parce que c'était un gros poste de radio. Il était dans la cuisine, et dans la cuisine se passaient les choses les plus importantes, c'est-à-dire les repas. Ma grand-mère écoutait religieusement, c'est le cas de le dire, la fiction du samedi soir à la radio, avec des comédiens dont elle connaissait les noms. Elle attendait, c'était comme une sorte de théâtre invisible. Et ces voix venues de nulle part, qui enchantait ma grand-mère, qui passait du rire aux larmes dans cette cuisine. On n'avait pas le droit de bouger parce qu'on aurait pu faire du bruit avec la chaise. C'est resté effectivement comme quelque chose de magique pour moi.
Est-ce que vous vous en êtes souvenu quand, un peu plus de 10 ans plus tard, en 1973, vous êtes entrée à France Culture?
Pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout. On n'écoutait pas la radio, nous, quand on était jeunes. On regardait pas la télévision non plus, d'ailleurs. Hein. On passait notre temps à aller danser, on passait notre temps à travailler, quand on dansait pas, et quand on sortait pas, et quand on se voyait pas entre copines. On n'écoutait pas la radio, pas du tout. Donc, grâce à une de mes amies, Geneviève Méric, qui travaillait déjà à la radio, qui était, comme moi, entre guillemets, montée à Paris, qui avait quitté le lycée Jeanne d'Arc, et qui attendait un enfant, elle me dit un jour, et ça tombait bien puisque c'était l'été où j'avais pas de boulot de prof de philo intérimaire, j'allais remplacer les profs malades dans la banlieue parisienne, elle me dit, voilà, est-ce que tu pourrais me remplacer pendant mon congé maternité? Et donc là, c'est le premier jour où elle m'a fixé rendez-vous, et je suis rentrée à la maison de la radio. D'abord, je me suis perdue, comme tout le monde, parce que c'est quand même une architecture extrêmement compliquée, complexe.
Une maison ronde. Donc quand on se perd et qu'on se perd dans les couloirs, on tourne et on se retrouve là où on est parti.
Oui, alors moi j'ai une autre idée, parce que comme j'avais suivi les séminaires de Foucault, et comme ensuite je vais beaucoup travailler avec celle qui est ma muse, ma maîtresse femme, ma directrice de conscience qui s'appelle Michel Perrault, et qui a travaillé aussi avec beaucoup avec Michel Foucault, je me suis dit que la maison de la radio, c'est exactement comme le panopticon de Jérémy Bentham, c'est-à-dire que c'est un endroit circulaire à l'intérieur duquel il y a une tour de contrôle, et à partir de cette tour de contrôle, comme dans les prisons autrefois, nous expliquait Michel Foucault, il y a besoin de très peu de personnes pour pouvoir surveiller la totalité des personnes.
Mais ça explique pas qu'on se perde. Hein. Bah, je rassure les auditeurs et les auditrices, on n'a quand même pas un contrôle suprême qui nous observe.
Non, mais j'ai trouvé ça très intéressant que l'architecture soit pareille. Et cette architecture, elle est quand même assez angoissante. Elle le demeure encore. Je crois que je maîtrise toujours pas. D'ailleurs, il avait été question à un moment donné de ma vie à la radio que la radio puisse être arasé et qu'on se déplace dans un autre endroit, dans un bâtiment moderne, hyper transparent, hyper chaleureux, avec un grand architecte. Et puis finalement, cette histoire n'a pas eu lieu. Mais je m'y suis habituée à l'architecture de la maison de la radio.
On y a
mais franchement, pas vous,
j'entends.
Non.
Et pour bien
non,
comprendre,
c'est très déstabilisant.
Pour bien comprendre, il faut sans doute voir le documentaire de Nicolas Philibert sur la maison de la
radio.
C'est
un film absolument
génial. On se rend bien
génial compte
de ce que c'est que cette maison. Et donc, vous êtes entrée, vous dites souvent, par la petite porte, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que je suis rentrée comme sténodactylo, que je n'étais pas parce que je ne savais pas taper à la machine. Et donc, je suis rentrée comme...
Assistante, ça portait pas de nom,
à l'époque. C'est-à-dire qu'il
on disait
fallait...
pas déjà attachée de production?
Non, on disait pas ça du tout. On disait travailler avec une équipe et savoir taper un conducteur, savoir téléphoner aux attachés de presse des maisons d'édition pour pouvoir faire les invitations pour le producteur.
Dans quelle émission êtes-vous entrée?
Panorama de Jacques Duchâteau.
C'était quoi cette émission?
C'était une émission très emblématique de l'ère du temps de cette période-là, parce que c'était une émission où toutes les opinions étaient représentées.
C'était le midi, faut le dire.
12h, 13h30. C'était tous les jours. Et le samedi, c'était le Pont des Arts. 12h, 13h30 aussi. Donc ça rythmait vraiment France Culture de l'époque.
Et ça parlait culture dans tous les sens.
Moi, je dirais pas que ça parlait culture. Je trouvais justement qu'il y avait pas assez de culture. Et moi, la culture qui m'intéressait, c'était la danse, c'était le théâtre, c'était la musique, le cirque. Et tout ça n'existait pas dans l'émission. Mais c'était la culture au sens, avec un grand C, des humanités. C'est-à-dire que c'était plutôt des débats de société avant la lettre. C'est-à-dire que Jacques Duchâteau prenait des thèmes de société, s'appuyait beaucoup sur les publications des essais, des documents. Nous étions dans une période où les essais, les documents étaient le navire amiral de l'édition à cette période-là. N'importe quel livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie se vendait en premier tirage à 50-60 000 exemplaires. Ne parlons pas de Foucault. Ne parlons pas de Deleuze, ne parlons pas de tous ces gens des sciences humaines qui étaient des véritables stars de l'époque. Et donc, il s'appuyait beaucoup sur cette partie des sciences humaines qui, moi, me passionnait intellectuellement beaucoup déjà pour organiser des débats. Et il y avait autour de la table beaucoup de gens parce que les gens n'étaient pas là pour ce qu'ils étaient, mais ils étaient là pour ce qu'ils représentaient. Donc, vous aviez un royaliste, vous aviez un type qui représentait les partis de Jean-Marie Le Pen, vous aviez un communiste, vous aviez un gaulliste, etc., etc., etc. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, très peu de femmes qui représentaient des opinions politiques. Et ça discutait, et en fait, Duchâteau, à sa manière, il a inventé une forme de radio qui est devenue aujourd'hui très à la mode, que je n'aime pas, d'ailleurs, qui est celle du clash, quoi. Il aimait bien quand les gens clashaient. Il aimait bien quand ça s'engueulait. Il aimait bien quand les gens quittaient le studio et disaient « je peux plus me faire entendre », etc., etc., etc. Mais en même temps, la vertu de cette émission, qui était quand même une quotidienne, c'est que c'était aussi un lieu de parole où on pouvait tout dire et où tout pouvait se dire, ce qui n'était pas forcément... Tellement présent à ce moment-là dans les médias. Donc c'était un espace de liberté intellectuelle.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes passé au micro?
Ah oui, très bien. Parce que donc, Quand mon amie Geneviève est rentrée de son congé maternité, moi j'ai dit à Jacques Duchâteau que j'allais reprendre mon boulot de prof. Et à cette époque-là, il m'a dit « mais j'aimerais bien que vous restiez, que vous lisiez les textes des auteurs invités et me faire me préparer des fiches ». Donc je suis restée pour préparer des fiches et au bout d'un certain temps, je reviens à l'architecture de la maison de la radio, tout est très loin. En tout cas, le studio était très loin du bureau. Donc, il me disait de l'accompagner parce que quand il se rendait au studio, il prenait ce temps-là pour écouter ce que j'avais à lui dire à propos de l'invité. Et puis un beau jour, il n'a pas voulu prendre la fiche. Et il m'a ouvert la porte du studio. Il m'a dit « j'ai pas besoin de votre fiche parce que c'est vous qui allez faire l'interview ». Mais il m'a pas prévenu. Je n'ai même pas eu 2 secondes pour pouvoir réfléchir à ce qui était en train de m'arriver. Et en fait, je lui en sais gré. Et je le remercie aujourd'hui parce que je pense que sans ça, j'aurais tellement tremblé. J'aurais dit non, non, je serais partie en courant, à reculons, à m'enfermer dans les chiottes. Enfin, j'aurais fait n'importe quoi pour ne pas y aller. Et là, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait.
Et alors ?
Ben, le rouge était allumé et... Et comme j'avais préparé l'émission pour lui, je m'étais préparée pour lui, encore une fois, mais je connaissais un peu l'itinéraire du monsieur, mais là, c'est la chance, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Il faut savoir l'attraper, la chance. Et donc, moi, ma chance, c'était que ce monsieur n'était jamais invité à la radio. Donc, c'était pas un beau parleur, c'était pas quelqu'un qui avait quelque chose à vendre, c'était quelqu'un qui avait... sa vision du monde à proposer, sa forme poétique d'appartenance au monde à suggérer. Et donc, je lui ai posé une première question et puis il a continué tout seul. Il avait tellement envie de parler qu'il a fait toute l'émission.
Est-ce que vous avez aimé ça tout de suite, une fois que vous y étiez, passer la peur ?
Non, ça m'a été indifférent. Je me suis dit que j'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il avait à dire, mais ça m'excitait pas particulièrement de passer au micro.
Vous disiez tout à l'heure que c'était le Panorama, une émission de conflits, de débats, de clash, et que Jacques Duchâteau, à l'époque, aimait particulièrement ça. Pas vous. Or, vous vous êtes retrouvé un peu plus tard, hein, on est en 81, je crois. Vous vous êtes retrouvé à la télévision, à participer régulièrement sur un plateau d'une émission qui était vraiment le clash par excellence, qui était Droit de réponse de Michel Pollack.
Parce que Michel Pollack écoutait le Panorama. Et Michel Pollack habitait en face de la maison de la radio. Et Michel Pollack, qui était un grand fumeur de Havane, venait, parce qu'à l'époque, dans le hall, vous voyez que je l'aime, cette maison de la radio, parce que je me souviens encore comment elle était avant. Dans le hall, il y avait... un bar tabac. Eh bien là, Michel Pollack venait prendre ses cafés et acheter ses Havanes. Et un jour, il m'a rencontré au bureau de tabac du hall de la maison de la radio. Et il m'a dit, dites-moi, je vous écoute depuis longtemps, moi, dans le Panorama. Vous voudriez pas venir un jour à la télé dans mon émission Droit de réponse ? J'avais déjà une expérience de télé, parce que j'ai commencé très jeune à la télé dans une autre émission qui s'appelait Aujourd'hui, Madame. C'était vachement bien parce qu'il y avait beaucoup de reportages, il y avait des débats de société. C'était de la télé old fashion, mais on respectait les gens. On avait des invités magnifiques. Moi, je m'en souviens avec beaucoup, beaucoup de bonheur. J'en suis partie aussi parce que, justement, l'émission devenait trop people et qu'on avait voulu me faire des émissions pour extraire un peu trop d'intimité à mes invités. Et ça, j'ai refusé, donc je suis partie. Mais quelques années plus tard, Michel Pollack, dans ce fameux bureau tabac de la maison de la radio, me dit « vous voudriez pas venir, etc. etc. » Bon, j'ai dit « pourquoi pas hein ?» Et j'y suis allée. Il était très sympa. Moi, je voudrais rendre hommage à Michel Pollack. Il était très drôle, immensément cultivé. Une culture philosophique, une culture littéraire, une culture picturale, une culture géopolitique qu'il ne mettait jamais en avant. Il avait une saveur de la vie, un éternel sourire à la commissure des lèvres. Il a été un immense journaliste. Et à la radio, il a laissé des milliers d'heures de grands entretiens de tous les grands intellectuels, de tous les grands poètes, de tous les grands architectes. Il est un gisement de patrimoine. On ne connaît plus de lui que cette face de magnifique, d'ailleurs, hein, de droit de réponse, qu'il a inventé un ton, un échange, etc., etc. Et je me suis très bien entendue avec lui. Je suis devenue une collaboratrice de Michel Pollack. On était deux, en fait, à être les collaborateurs de Michel Pollack. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Roland Jacquard, qui dirigeait une collection aux presses universitaires de France qu'il avait créée, qui s'intitulait « Perspectives critiques », qui lui aussi était très féru de sciences humaines, de psychanalyse, de sémiologie, etc., etc. Et tous les trois, on se voyait très très souvent. On refaisait le monde au cours de déjeuners à la radio et on préparait ensemble les émissions. Et puis surtout, il y avait la grille d'été de la télévision, d'Antenne 2. Et pendant la grille d'été, Michel Pollack nous laissait les clés à Roland et à moi, et nous disait, alors, il y a des intellectuels que vous aimez, il y a des intellectuels que vous admirez. Eh bien, je vous laisse les clés et faites des émissions pendant que mon émission s'arrête. J'ai obtenu des sous pour faire des portraits de grands intellectuels. Et donc, on a fait comme ça plusieurs étés, plusieurs grandes traversées du monde intellectuel. Je suis pas nostalgique, comme je vous l'ai expliqué, mais là, je le deviens. Parce que je me dis... Mais pourquoi on ferait pas ça à la télé aujourd'hui? Ça intéresserait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
La télé, vous l'avez jamais quittée, Laure Adler, comme la radio d'ailleurs, puisque vous y avez passé une partie aussi de votre vie professionnelle. En 92, vous avez créé une émission, elle aussi devenue emblématique, qui était le Cercle de minuit, sur France 2, que vous avez animé de 93 à 97. Vous êtes, depuis 2021, chroniqueuse dans C'est ce soir, sur France 5. Bon. Est-ce que vous préférez la radio ou la télé?
J'aime beaucoup la télévision. Je pense que la télévision de service public, surtout en ces temps que nous traversons, où des groupes puissants sont en train d'édifier des empires qui eux-mêmes servent à transmettre des messages au quotidien de déstabilisation de notre propre démocratie, que la télévision de service public est plus que jamais importante, nécessaire, vitale pour continuer à tisser le lien à l'autre, l'inscription de chacun d'entre nous à l'intérieur de la démocratie et le respect que nous devons à chacun d'entre nous. Elle a une responsabilité politique au sens le plus haut du terme, c'est-à-dire de l'agora, de la place publique et de la garantie de nos institutions et du respect que nous devons à ces institutions.
Ce que vous dites de la télé, vous le diriez de la radio ?
Je le dis aussi de la radio, c'est extrêmement important. Je n'ai jamais vécu comme maintenant cette menace de la démocratie et cette nécessité du service public audiovisuel pour garantir le rapport à la vérité.
Laure Adler, revenons à vous, si vous le voulez bien. Est-ce que votre méthode de travail a évolué en 49 ans et demi ?
Je n'ai pas de méthode de travail.
Vous dites beaucoup qu'à la fin de l'heure bleue, qui a été la dernière émission que vous avez faite sur France Inter, de 2016 à 2023, à la fin vous entriez sans notes dans le studio, mais qu'au début, quand vous avez commencé, vous aviez des notes de préparation. Alors ça, c'est peut-être une méthode qui a changé, une façon de vous entretenir.
Non, j'avais une réalisatrice au début de l'heure bleue qui était géniale, avec qui je m'entendais très bien, Véronique, qui était une jazz woman et qui me disait « Écoute, enfin, quand même !» Alors elle, je crois qu'elle avait 52 ou 53 années de radio, c'est pour ça qu'elle a quitté, hélas, l'équipe. Elle me disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne fasse pas un conducteur. » Je dis « Mais moi, j'ai pas besoin de conducteur. »
Un conducteur, c'est une sorte de plan, hein ?
Oui,
radiophonique.
Je lui disais « Mais écoute, Véronique, je croyais que tu aimais le jazz. Ben, le jazz, c'est l'improvisation, donc on va faire des impros, je sais pas où je vais, je sais pas... où je veux aller, on verra bien. Par définition, c'est le moment que nous allons vivre ensemble, donc je te ferai pas de conducteur. » Mais elle m'obligeait à faire un conducteur. Mais dès qu'elle est partie, plus de conducteur. Pas la peine d'avoir un conducteur. Mais je travaille énormément parce que je suis très angoissée. Et comme les mauvais élèves, je travaille souvent jusqu'au dernier moment. Tout le monde se fout de ma gueule à l'intérieur de la famille parce que je travaille, je travaille, je travaille. Ma famille me dit « Mais à quoi ça te sert de travailler ?» Eh ben, je sais pas à quoi ça me sert, mais ça me sert à me rassurer. Mais une fois que le rouge est allumé, je n'ai pas de méthode de travail.
C'est quoi un bon entretien? Parce que vous disiez que Michel Pollack, il fallait lui rendre hommage. C'est vrai parce qu'il avait laissé des milliers d'heures de grands entretiens.
Et qu'il est aujourd'hui un peu disparu du PAF, hein.
On pourrait dire la même chose de Jacques Chancel et on pourrait dire
absolument. Jacques était un grand maître et j'ai eu la chance de travailler à la télévision pendant des années avec Jacques Chancel. Et c'est à lui que j'ai proposé le Cercle de minuit. Et Jacques m'a dit, mais ton idée est excellente. Donc je voudrais rendre aussi un hommage à Jacques.
Et on pourrait dire la même chose aujourd'hui de vous, Laure Adler. Vous laissez des milliers et des milliers d'heures d'entretien. Ceux qui ont été vos modèles...
Non, je me compare ni à Jacques Chancel.
Il se trouve que vous êtes un modèle pour beaucoup.
Ni à Bernard Pivot.
Donc, d'où cette question.
Ni à Michel Pollack.
Qu'est-ce que c'est pour vous, puisque vous avez laissé des milliers de grands entretiens, hors champ sur France Culture, Des Avoies Nues, Studio Théâtre, L'Heure Bleue sur France Inter. C'est quoi un bon entretien?
Je sais pas.
Quand est-ce que vous vous dites à la fin d'une émission, c'est une bonne émission?
Je me dis jamais ça.
Est-ce que vous aimez votre voix?
Je l'écoute rarement. Je me souviens que quand j'ai créé ce Cercle de minuit et que je l'ai proposé à Michel Field,
ça, c'est la télé,
au début pour la télévision, et qu'ensuite bon, Michel est parti vers Canal et que s'est posé la question de savoir qui allait le remplacer... Et que je crois que c'est encore Jacques Chancel et Hervé Bourges et Pascal Joseph qui m'ont proposé de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de présenter l'émission à laquelle j'avais songé, mais sans jamais penser que j'allais un jour la présenter. On m'a obligée à écouter ma voix et je supporte pas. Donc je sais pas comment elle est ma voix. C'est très difficile. Mais je pense que pour chacun d'entre nous, c'est très difficile de s'entendre.
Je vais vous poser la question autrement sur le bon entretien. Il se trouve que vous avez quelque chose de particulier alors quand vous vous entretenez. C'est pas des interviews, c'est vraiment des entretiens au long cours que vous faites avec vos invités. Il y a un art de la première question chez Laure Adler. Comment pensez-vous cette première question? En fonction de quoi? C'est à partir de la première question que se déroule le fil, surtout quand vous n'avez pas de conducteur.
Ben, j'ai pas d'idée. En fait, l'idée, elle vient quand le rouge s'allume. En fait, je demande à chaque invité de choisir une musique avant de commencer à parler. Et en fait, en écoutant cette musique et en ayant l'invité en face de moi, c'est souvent l'idée comme ça qui surgit. Et grâce à France Inter, j'ai découvert des tas de pans de la musique et de la joie que pouvait me donner la musique. J'ai découvert d'immenses joies à France Culture. Et ça a été ma maison pendant des décennies. Mais France Inter m'a apporté la musique, toutes les musiques du monde. Et à l'intérieur de la musique se nichent quelquefois des foyers du sensible, des foyers de l'intime qui permettent, sans attenter à la pudeur de l'invité, tout d'un coup de poser une question parce que vous avez attendu cette musique et entendu cette musique.
Vous dites, Laure Adler, que France Culture a été votre maison. Au début, on a commencé en disant que Radio France avait été votre maison pendant très très longtemps. Elle continue d'ailleurs, parce que vous n'avez pas complètement quitté Radio France. Ça a été d'autant plus votre maison que dans les années 70, à peu de temps après votre arrivée, vous y avez rencontré un homme avec qui vous partagez encore votre vie, Alain Weinstein, pour le nommer, qui s'occupait d'une émission, elle aussi emblématique de France Culture, Les Nuits Magnétiques, à l'époque, et avec qui vous avez fait un petit bout de chemin, on va dire.
Bah oui, je crois que je suis pas la seule à m'être mariée en rencontrant quelqu'un de la radio, ou à être tombée amoureuse ou amoureux. Je crois qu'on est nombreux, les couples, de la radio. D'ailleurs, un jour, faudrait faire un grand bal dans le hall de la maison de la radio, entre toutes celles et tous ceux qui se sont rencontrés grâce à la radio. Je crois qu'on est très nombreux. Et je vais proposer ça à notre PDG. Mais je crois qu'on partage, et je partage pas seulement avec Alain, mais avec toutes celles et ceux que je connais bien et que je continue à voir, parce que la Maison de la Radio, c'est aussi une familiarité avec ce que nous partageons de plus intime, c'est-à-dire, on vit ensemble, quoi. On vit un peu de la même manière. Il n'y a pas seulement les journalistes, il n'y a pas seulement la rédaction, il y a aussi les techniciens, il y a aussi les chargés de réalisation, il y a aussi celles et ceux avec qui on part en voyage, on va partager des choses importantes. Il y a aussi les missions où on part à l'autre bout du monde ou même dans une province reculée, on va passer des nuits entières à discuter. Donc, il y a un espace commun. Il y a une manière de penser le monde. Il y a une responsabilité aussi, je crois, de la part de tous ces corps-là. C'est ça que j'aime à la radio. C'est que c'est un mélange de corps professionnels qui travaillent ensemble et pour la même chose. Et je crois qu'on dira jamais assez aux auditrices et aux auditeurs qu'on est ensemble et on essaye. On ne fait pas toujours du mieux possible, mais on essaye toujours de faire du mieux possible. Et on est tous ensemble. Et qu'une émission de radio, y compris quand on est dans le studio, on n'est pas tout seul. On est avec les deux techniciens qui sont en régie technique, on est avec la réalisatrice ou le réalisateur, et on est avec l'invité. Et c'est un bateau qui part. Le journalisme à la radio, c'est quelque chose là aussi de collectif et de responsable. Et tout le monde est responsable. Et on partage cette responsabilité.
Et est-ce qu'on n'est pas aussi avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent de l'autre côté, à qui on s'adresse?
On n'en sait rien. Ils sont invisibles. C'est une communauté invisible.
Alors, c'est à eux qu'on s'adresse. Vous n'y pensez pas quand vous faites de la radio?
Non, parce que c'est difficile de penser. Je pense à l'invité, je regarde ses yeux. Je peux pas penser à une communauté invisible. Alors évidemment, j'ai des visages. Mon père écoutait mes émissions tous les jours et le lendemain matin, il m'engueulait et me faisait le débrief. Donc j'ai des visages. Et puis je reçois encore aujourd'hui beaucoup de courriers avec des, pas seulement des fleurs, mais aussi des broderies, des dessins, des poèmes, des fleurs séchées, des cartes postales avec des personnes qui me racontent des choses très très émouvantes. Donc j'ai un paysage mental. Vous imaginez qui vous écoute là, qui nous écoute, on ne sait pas. C'est peut-être ça aussi le piquant de l'affaire et l'énigme de la radio. C'est ce mystère-là, cet inconnu-là. C'est très bien de ne pas savoir à qui on parle.
Merci Laure Adler. On se retrouve pour l'épisode 3 demain?
Oui.
À suivre donc l'épisode 3, les allées du pouvoir. À demain. C'était À Voix Nue avec Laure Adler, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.